France Culture.
Salle des archives. Mathieu Garrigou-Lagrange.
France Culture, salle des archives. Hardy, Dutronc, féminin, masculin. Épisode 3. Un couple jamais en tête à tête.
Innocent de l'amour.
Je recommence.
Rue Allée, dans leur maison du 14e arrondissement de Paris, Françoise vivait au premier étage. Dans sa chambre dépouillée, presque ascétique, elle se livrait à l'astrologie le matin et l'après-midi à la musique ou à la lecture. Au deuxième étage, c'était son domaine à lui, avec la petite salle de projection qui pouvait accueillir des amis dans une atmosphère beaucoup moins austère. Enfin, le troisième étage était celui du petit Thomas, plus clair et plus frais, comme le note dans sa biographie de la chanteuse Marie-Dominique Lelièvre. Cette répartition spatiale de la maison, cette façon de vivre ensemble mais séparément, a beaucoup intrigué les fans du couple et les Français en général. On en trouve ça et là des échos dans la salle des archives.
J'ai lu dans les journaux que vous viviez dans deux coins séparés.
Oui, depuis un certain temps, c'est lié à son travail parce qu'il ne pouvait pas travailler à la maison. Les conditions étaient vraiment impossibles il l'a raconté lui-même avec Thomas, notre fils, donc qui élargit, comme son père le dit, de plus en plus son territoire, qui envahit toute la maison. Et c'est vrai qu'on peut pas être tranquille, travailler, avoir un matériel hyper coûteux, fragile, entreposé chez soi à partir du moment où les copains font la razzia.
De Thomas, nous parlerons justement plus tard, parce que au moment où nous en sommes dans cette histoire, Françoise n'a pas encore acheté cette maison, elle n'est même pas encore avec Jacques. Avant de parler de leur rencontre, il faut faire un détour par les ex, ceux qui étaient là avant. Côté Jacques Dutronc, il y avait notamment Guylaine, rencontrée à l'école de dessin industriel, avec qui il avait prévu de se marier. Sauf que 3 jours avant la cérémonie, voilà qu'il annule tout et reprend in extremis la liberté qui lui était si chère. Du côté des ex de Hardy, il y a eu notamment Jean-Marie Perrier, photographe de Salut les copains, fils naturel d'Henri Salvador, même s'il ne l'apprendra que sur le tard, garçon né à Neuilly et très introduit par sa famille dans le monde glamour du cinéma, de la presse et des stars de la capitale. On l'écoute en archive, le 21 juin 1971, soit plusieurs années après sa rupture avec Françoise Hardy.
Vous n'avez pas pensé à un moment que vous pourriez l'épouser ?
Oh si, mais pourquoi faire ? Écoutez, je vais vous dire...
Vous n'êtes pas fait pour vous marier.
C'est pas ça, mais d'abord, on avait 22 ans. Enfin, j'avais 22, elle en avait 17. Et elle gagnait en un soir ce que je gagnais en un mois. Elle voyageait...
Ça, c'est votre orgueil, votre vanité. Vous ne vouliez pas épouser quelqu'un qui gagne plus que vous.
Ah, c'est pas possible, non. Je veux dire, je crois que c'est pas possible.
Vous êtes un homme.
Faut choisir. Et en plus de ça, elle voyageait tout le temps, moi aussi... C'est pas possible d'avoir une vie en commun comme ça. On peut avoir que finalement le plus important, si vous voulez, c'est-à-dire le sentiment qui restera toujours de toute façon. C'est-à-dire que c'est quelqu'un que j'aime vraiment.
Hardy, Dutronc, féminin, masculin.
On s'est trouvé, rien n'est perdu, nous sommes éperdus, on va le prouver.
Une série en 6 épisodes de Mathieu Garrigou-Lagrange, réalisée par Delphine Lemaire. Attaché d'émission, Lily Corner.
Jean-Marie Perrier venait d'une famille aisée. Il avait rencontré Hardy parce qu'il l'avait photographié à ses débuts dans le 40 mètres carrés où elle vivait avec sa sœur et sa mère. Il a souvent raconté que de découvrir la chambre de Françoise, si modeste, lui avait serré le cœur. Et pourtant, quand elle s'était mise à gagner beaucoup d'argent, beaucoup plus que lui, là, eh bien, il n'était plus attendri du tout. Au fond, une femme, c'est probablement moins séduisant si elle ne dépend pas de vous, financièrement parlant. Au moins avec Jacques Dutronc, Hardy n'a jamais eu ce problème. Cela ne le gênait pas qu'elle gagne beaucoup d'argent. D'ailleurs, aujourd'hui encore, il vit dans les maisons qu'elle a achetées et qui appartiennent à présent à leur fils depuis le décès de Françoise en juin 2024. Toujours est-il que Hardy a été amoureuse de Jean-Marie Perrier, très amoureuse même, et lui aussi bien sûr, mais sur un mode, disons, moins engagé. Le côté volage de Perrier, la trahison qui gâche tout, elle l'avait même évoqué dans sa chanson « Et même », sortie en 1964.
Pourquoi avoir fait ça ?
Véronique Mortaigne, vous êtes journaliste, spécialiste de musique au journal Le Monde. Que nous disent, selon vous, de Françoise Hardy et de son histoire d'amour, d'abord avec Jean-Marie Perrier, les paroles de cette chanson ?
Moi, je retiens tout le temps ce leitmotiv, et même. Et même si, et voilà, ça fait partie du personnage de Françoise Hardy.
Et même si, alors là,
c'est l'insaisissable, c'est le domaine de l'insaisissable, et là, c'est un domaine où elle excelle, où elle l'a beaucoup raconté, d'ailleurs. Elle l'a beaucoup écrit en chanson. Et même si je t'aimais, même si je t'aimais pas, et même si tu restais, même si tu n'étais pas là, ça constitue la trame, d'une certaine manière, des sentiments profonds, des sentiments dévastateurs parfois qu'elle a eu par rapport aux hommes qu'elle a aimés et qu'elle a définis plus ou moins. Dont, vous savez, elle a écrit un livre qui s'appelle L'amour fou. Dans L'amour fou, elle décrit une relation qui est un monsieur X, donc monsieur on ne sait pas qui. Donc ça, c'est post-Dutronc, mais enfin ça, c'est une somme des hommes qu'elle a pu aimer et qui l'ont mise à la torture en permanence. Donc que ce soit Jean-Marie Perrier, que ce soit Dutronc, que ce soit le monsieur X ou les messieurs X, on ne sait pas très bien. Elle disait « Monsieur X emprunte aux uns et aux autres ces hommes qui avaient le même profil ou chez qui je provoquais les mêmes attitudes ». Et ça, c'est intéressant parce qu'elle s'auto-analyse en disant qu'elle-même, par ce côté-là, ce côté elle-même, ce côté insaisissable, ce côté fuyant, protégé et complètement livré en même temps, elle suscitait l'amour de ces hommes qu'elle a eus toute sa vie.
Donc des hommes qui, au fond, étaient plutôt volages, et c'est ces hommes-là qu'elle aimait, et elle s'en rendait bien compte, comme s'il y avait une impossibilité pour elle de faire vraiment couple d'une façon qui soit finalement satisfaisante.
C'est-à-dire que parfois on peut faire couple et être volage, et là il y a une impossibilité chez Hardy. Du coup, parce que de quoi elle parle dans ses chansons ? Elle parle de l'éphémère, du temps qui passe, de tout ce qu'on ne peut pas maîtriser, alors qu'elle essaie de maîtriser par des chemins un peu parallèles, notamment par l'astrologie. Elle constate par l'astrologie qu'elle est qu'il y a une bile noire comme ça du Capricorne et qu'elle ne peut pas s'en défaire et que tel est son chemin de vie dans lequel rentrent ces hommes « volages » entre guillemets.
On va revenir à la question amoureuse, mais sur ce que Jean-Marie Perrier lui a apporté en dehors de leur couple, c'est aussi l'image qu'il a façonnée d'elle à travers son travail de photographe, l'icône qu'il en a fait.
Jean-Marie Perrier était très doué, n'est-ce pas, pour créer de l'image à l'époque. Mais elle, c'est ça qui est intéressant, elle, la jeune fille timide, introvertie, vraiment très liée à sa mère, elle se prête au jeu. Tout le temps, c'est ça le paradoxe.
Et pourquoi, d'après vous ?
Parce que c'est une rockstar. Voilà, elle a un don inné et de fait, elle va devenir cela, hein, notamment en passant par l'Angleterre, etc. Bien sûr, avec les clichés de Jean-Marie Perrier, mais elle a le don de créer cette image en rupture avec son époque, qui fait que ben, c'est l'avancée du rock et de la rockstar, de la figure de la rockstar, et c'est une rockstar. Et Jean-Marie Perrier, eh bien, il saisit la beauté et la beauté androgyne de Françoise Hardy. Hein. Il en crée une image avec ses costumes, on va dire. Hein. Il crée des costumes, il crée des pantalons aux pattes d'eff, les petits raccourcis, là, tout ça, etc. Et puis la frange et tout. Il crée une icône par ses images, c'est un fait. Mais elle s'y prête. Elle n'est pas victime innocente. Hein,
elle n'est pas totalement objet
elle
dans cette
objet.
Relation.
Elle n'est jamais objet.
Françoise Hardy et Jacques Dutronc se sont connus de façon assez classique, puisque après tout, ils se sont rencontrés au travail. Chez Vogue, sa maison de disques, Hardy était déjà une star depuis l'immense succès de Tous les garçons et les filles. Dutronc, pour rappel, est alors assistant du directeur artistique Jacques Volson, celui qui a lancé Hardy, nous en avons parlé dans le premier épisode. Jacques trouve cette fille absolument sublime, mais la réciproque n'est pas vraie. Ses lunettes épaisses, son acné, son corps d'adolescent ne font pas beaucoup rêver Françoise. Jacques n'est encore que ce grand gamin qui joue de la guitare, compose de la musique et rigole sous cap avec son pote, qui est aussi son patron, Jacques Volson, toujours lui. Sur l'apparence physique de Jacques d'ailleurs, écoutons Eddie Mitchell en archive.
Jacques à l'époque, non, Jacques était très très myope, ce qu'il a toujours eu, mais il avait peut-être pas les moyens. Jacques avait des triples foyers, des lunettes un peu vertes, ce qui donnait quand même un regard assez étrange, les cheveux courts et des boutons. Voilà, bon, c'était pas le playboy qu'il a été ensuite, et rapidement d'ailleurs.
Entre Françoise et lui, la dissymétrie dans les sentiments est pour l'instant flagrante, à son avantage à elle. Il faut se souvenir que c'est l'époque où Bob Dylan refuse d'entrer sur scène à l'Olympia, tant que Françoise Hardy, qu'il sait présente dans le public, ne sera pas passée le voir dans sa loge. Mais Dutronc a quand même repéré cette fille, et il entame une tactique au long cours pour la séduire, elle et d'autres filles aussi. Pour ce faire, il échange ses lunettes contre des verres de contact et se coule dans un personnage à même de lui assurer un certain mystère, une sorte de détachement. Au fur et à mesure, Dutronc commence à intriguer Hardy. Et puis une chose les rapproche, l'une des chansons qu'elle interprète a été écrite par lui, c'est justement « Le temps de l'amour ».
C'est le temps de l'amour, le temps des copains et de l'aventure. Quand le temps va et vient, on ne pense à rien malgré ses blessures. Car le temps de l'amour, c'est long et c'est court, ça dure toujours, on s'en souvient.
À mesure qu'elle le côtoie, Françoise Hardy commence à envisager Dutronc de plus en plus sérieusement, jusqu'à le pousser à faire le premier pas, comme elle l'a raconté dans cette émission qui date d'avril 2005.
Donc je me suis trouvée dans cette situation où j'avais l'impression que lui, de son côté, il y avait aussi quelque chose, mais qu'il n'osait pas, et moi je n'osais pas non plus. Il y avait eu un retour de Belgique où on s'était retrouvés ensemble pour un gala, et où la personne qui conduisait ma voiture avait eu un accident avec ma voiture. Donc j'étais rentrée de Belgique à Paris avec Jacques, à côté de lui, je m'étais dit, il va peut-être profiter de la situation. Enfin, j'espérais qu'il allait profiter de la situation, puis rien. C'était vraiment très douloureux, très difficile. Et donc, en Corse, pareil, quand il est venu, je me suis dit, bon, là, il va peut-être se passer quelque chose. Et puis, rien du tout. Moi, je n'arrivais pas, quand on éteignait les feux, que chacun allait dans sa chambre et tout. Je me disais, je devrais aller dans sa chambre. Mais je n'y arrivais pas. Et donc, effectivement, ce qui s'est passé, comme José Arthur le raconte, c'est qu'un jour, il s'est mis d'accord avec tous ses amis qui étaient là, qui étaient aussi mes amis d'ailleurs, pour que on nous laisse seuls à partir d'un certain moment de la journée. Et donc, c'est ce qui s'est passé. Et je me souviens parfaitement qu'on s'est retrouvés seuls tous les deux. Je me souviens parfaitement qu'on a dû boire beaucoup. Enfin, en tout cas, des choses qui nous ont rendus ivres très rapidement. Je me souviens parfaitement qu'il m'a parlé énormément. Et comme je l'ai dit souvent, le regret de ma vie, c'est justement d'avoir été dans un état qui fait que je ne me souviens de rien de ce qu'il a pu me dire. Et comme c'est quelqu'un qui parle très peu... Donc tout ce qu'il dit, vous savez, évidemment, devient très précieux et très précieux. J'ai tout oublié. Mais enfin, en tous les cas, ça s'est passé. Nous sommes montés ensemble dans ma chambre, qui est devenue la sienne à partir de là. Et le lendemain, comme il n'avait pas de foulard rouge, donc il a mis une chemise rouge pour que ses amis sachent que ça avait marché.
Et ça vous gêne pas que finalement il y a eu ce code avec ses amis
Mais moi je l'ai su longtemps après, oui, je l'ai su longtemps après. Si, bien sûr, ça m'a gêné un petit peu sur le moment, mais aujourd'hui il y a prescription, vraiment.
C'est drôle, parce qu'elle était, Françoise Hardy, dans une noirceur évidente, mais elle était très drôle aussi, elle avait beaucoup d'humour. Il y a le côté... du refus de Dutronc qui attire énormément Françoise Hardy. Et comme elle ne fait pas le premier pas, c'est vraiment là, ils sont dans le même bateau. Et c'est ça qui est intéressant. Et c'est en ce sens où ils font couple, parce que finalement, ils sont dans ce même entre-deux de... On ne sait pas, peut-être que... Et qu'est-ce qu'elle pense? Et que va-t-il penser?
Donc ils se ressemblent énormément, finalement, sur tous les points.
Ils se ressemblent, c'est-à-dire qu'en fait, ça combine, ça match. Hein, donc, évidemment... Et puis, bon, le fait qu'elle dise qu'elle se souvienne de rien, c'est très amusant, quoi. C'est drôle. Bon, l'histoire de la couleur de la chemise, c'est drôle aussi, parce qu'elle dit qu'elle n'était pas au courant, qu'elle a su après, heureusement, parce que c'est quand même très macho, quoi. Et Dutronc avait cette dimension quand même très méprisante aussi, hein, par rapport à beaucoup de gens et par rapport aux femmes, parfois.
Est-ce que vous diriez que dans leur travail d'artiste et dans leur travail de chanteur, ils se ressemblaient aussi, ils avaient une même façon d'envisager les choses?
C'est un petit peu plus compliqué, parce que Françoise Hardy, qui est pour moi quelqu'un de... C'est une grande créatrice. Dutronc, pour moi, est un créateur de personnages. C'est un très bon acteur. Donc on n'est pas sur la même ligne d'une certaine manière. Elle a écrit, composé, interprété des chansons sublimes. Lui était très lié à un parolier, hein, c'est ça qui a fait, c'est-à-dire Lanzmann, qui a fait vraiment éclater son talent d'interprète, de showman, etc. Mais pour moi, Dutronc est d'abord un acteur. Et ensuite, ils ont fait des choses en commun. Par exemple, ils ont fait une chanson qui s'appelle « Partir quand même ». Mmh. C'est lui qui l'a écrite et qui était absolument génial. On a « et même, quand même, ça recommence ».
Donc ils se parlent l'un l'autre par chansons interposées, parce qu'on a l'impression que, chez Françoise Hardy, ces chansons sont une autobiographie de ses sentiments amoureux, et donc elle parle finalement à Jacques Dutronc en lui adressant des chansons.
C'est pas forcément lié à Dutronc, les chansons qu'elle écrit, Françoise Hardy, c'est lié à un état qu'elle ressent. Par rapport, d'abord, elle dit qu'elle est misanthrope, donc dès qu'elle est amoureuse, ça prend des proportions absolument colossales, parce qu'elle n'aime pas les gens. Donc, et ça lui
ça
rappelle,
rend les choses difficiles.
Ça rend les choses difficiles, et ça lui rappelle les sentiments qu'elle avait pour sa mère, qu'elle a toujours définis comme démesurés.
Mais les sentiments, pour elle, c'est un moteur de création, alors que pour lui, pas vraiment.
Les sentiments, chez Dutronc, c'est compliqué. Hein, c'est-à-dire que, comme elle le dit dans l'archive qu'on a entendu, il ne parle pas beaucoup. Moi, j'ai personnellement interviewé Dutronc à plusieurs reprises dans des séquences très muettes.
Gênantes ?
Pas forcément gênantes, parce qu'il y avait quelqu'un qui parlait à sa place. Donc, notamment, certaines de ses compagnes, après Françoise Hardy, aux aides des déjeuners, elle parlait, mais lui, très peu. Hein, c'est-à-dire vraiment par petites touches. Donc il est en retrait tout le temps, hein. Il était en retrait, et même sur scène, de toute façon, c'était quelqu'un qui était en retrait. Quand il faisait ses spectacles, il mettait tous ses copains corses, le boucher qui arrivait, le petit nain, des personnages qui meublaient à la fois son quotidien et son quotidien d'artiste. Effectivement, Hardy n'était pas du tout dans le jeu, ni aucune femme d'ailleurs, hein. Et donc, il avait ces talents d'acteur. Hein. Je vais me répéter, mais je pense qu'effectivement, il savait se mettre en scène.
Depuis que Dutronc s'est transformé en playboy, il est passé de garçon timide à provocateur sans limite. Peut-être une manière de s'accommoder de sa timidité, justement. Il vit sans cesse entouré d'une sorte de cour de copains qui rit à chacune de ses blagues, y compris et surtout les plus douteuses. Il aime l'alcool, les cigares, les voitures, et il a à son bras l'une des plus célèbres chanteuses du moment avec qui il pose dans les magazines. Dutronc est alors l'homme de toutes les ivresses. L'idylle entre eux dure 6 mois. Et puis, alors que Françoise avait mis beaucoup de temps à simplement le regarder, elle commence à se rendre compte que c'est au tour de Jacques de se faire distant. Comme si, une fois conquise, sa proie l'intéressait moins. À la question « Que préférez-vous chez une femme ?», il répond même « Son absence », précisant même qu'elle est inestimable. Quand Françoise part en tournée autour du monde et aimerait dîner avec lui à son retour, il ne se rend pas toujours au rendez-vous, ou alors il se présente en retard, sa bande, sa cour, ses copains semblent passer avant elle. Dans les interviews, on dirait même qu'il tire une certaine gloriole de son côté macho, comme ici dans cette archive de 1970.
Vous êtes sentimentale avec les femmes ?
Souvent, ouais. Clair de lune, sa gondole, violoniste.
Ça marche ?
Ouais, et puis le coup de pied aussi, ça va.
Le genre de fille qui vous intéresse physiquement ?
J'aime bien le genre petite dactylo.
Ah bon ?
Petite starlette aussi, ça j'adore ça.
Pourquoi ? Parce que c'est des filles faciles ?
Non, au contraire, c'est très difficile ça là.
Ah ouais ?
Car elles ont tellement lu de romans qu'elles ne croient jamais à tout ce qu'on peut leur dire. Car les jeunes filles, lorsque l'on fait une déclaration à une jeune fille, souvent elle prend ça pour un contrat d'un an ou 2 ans ou 3 ans. Alors que si je dis quelque chose, par exemple, à une jeune fille, je vous trouve belle, je lui dis, s'il est 2 heures de l'après-midi, je lui dis à 2 heures. Ou s'il est 4h-25, vous voyez, je vous le dis maintenant, par exemple. Je lui dis, je vous trouve belle, vous avez des yeux verts, ça, c'est vrai. Et jeune fille, non, je connais, c'est du baratin, ceci, cela. Alors que... quand je dis quelque chose à une jeune fille, il faut qu'elle pense que c'est pour maintenant, c'est tout. Mais peut-être pas pour un mois, ni non.
Ça vous arrive donc d'être sincère sur le moment, tout au moins?
Tout le monde est comme ça, je suppose.
Véronique Mortaigne, une réaction?
Mais tout le monde est sincère sur le moment, oui, il a raison, il a ce côté très décapant, Jacques Dutronc, parce qu'en fait, il dit les vérités, il les énonce de manière très simple. C'est vrai que les jeunes filles, les petites dactylos, lisent des romans, etc. Il a raison sur toute la ligne, il est imparable. Et par contre...
Il n'est pas politiquement correct, comme ne l'était pas non plus Françoise Hardy, ça,
ben,
c'est sûr.
Politiquement correct, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, hein, dans le fond, parce que là, il n'est pas méprisant non plus. Hein. Donc, il a eu des manifestations de machisme bien pires que celle-ci. Il n'est pas méprisant, il dit simplement que lui, il est sincère quand vous avez des yeux verts, etc. Donc je trouve qu'il est plutôt touchant quand il est comme ça.
Un peu comme Françoise Sagan à la même époque, qui vit au milieu de sa petite bande, Jacques Dutronc est donc sans cesse entouré d'une bande d'amis et de connaissances qui l'empêchent d'être seul avec Françoise Hardy, ce qui au fond l'arrange pas mal. Dans son entourage, une personne en particulier a pris une place prépondérante sur le plan artistique. Il s'agit de Jacques Lanzmann, parolier des plus grands tubes des premières années de Jacques Dutronc. Entre eux, c'est d'abord une histoire d'humour, une histoire de farce et de calembour. Archive le 29 mars 1967.
Oui, pour vous, la vie reste une chose pleine d'humour, quoi.
Oh, la vie est une chose horrible. Horrible. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, ils sont en train de me tuer. Et puis tout ce qui se passe dans le monde, c'est pas très gai. C'est pas. Mais je crois que même lorsqu'on est pris dans des événements tragiques, il m'est arrivé, moi, de me trouver à La Havane en pleine révolution castriste. J'ai été dans des situations vraiment très étranges où on me disait, voilà, si vous ne parlez pas, si vous ne nous dites pas où se trouve le maquis de Castro, ça se passait à Santiago de Cuba, dans la Sierra Mas, puisque vous l'avez rencontré, si vous ne nous dites pas où est ce maquis, vous voyez ce tigre là-bas que nous avons dans la cour de la caserne, on vous jette au tigre. Bon, et effectivement, ils jetaient des gens au tigre. Et moi, j'arrêtais pas de rire, je sais pas pourquoi, c'était plus fort que moi, je riais, je plaisantais. C'est un petit exemple, entre autres.
Moi, je peux vous donner un tas d'exemples. Je vous donnais que l'exemple que, par exemple, certains de mes musiciens me cachent mes lunettes, et eux, ça les fait rire, par contre. Et après, ils disent, ah, elles sont cachées, là, voilà. Alors ça me fait rire beaucoup, ça.
L'humour, la camaraderie, c'est la base de leur relation commune.
Non, mais j'adore le méli-mélo, quand même, entre la révolution castrice et les lunettes qui sont cachées. Enfin, des choses qui n'ont absolument rien à voir, qui ne sont pas du tout sur le même plan et qui dénotent des personnalités totalement différentes, puisque Lanzmann était quand même un aventurier de première classe, hein, où il a fait l'Amérique latine après-guerre, il a fait, après, plus tard, il est allé au Tibet, enfin, c'était une sorte de globe-trotteur, même pas post-68 ans, puisque c'était bien avant qu'il avait parcouru le monde,
Il était plus âgé que Dutronc.
Il était plus âgé, oui, donc il était parti après-guerre vivre des aventures diverses et variées dans des pays, ce que n'a jamais fait Dutronc. Donc ce que dit Dutronc, c'est que pour lui, cacher les lunettes, là, c'est une aventure extrême, alors que l'autre a failli être mangé par un tigre, enfin je demande à voir, à Cuba. Et c'est génial, cette rencontre de banalité quotidienne quasiment potache Dutronc, avec ses musiciens qui s'amusent à l'embêter avec sa myopie, mais qui est une chose profonde dans le fond, hein, évidemment. C'est gênant d'être myope, complètement myope, hein, et de se faire cacher les lunettes. Mais en même temps, c'est vraiment deux choses qui sont pas du tout sur le même plan et qu'ils arrivent à raccorder tous les deux. Et quand on écoute les chansons qu'ils ont faites ensemble, c'est exactement la même chose. C'est une espèce de raccord des Chinois, de Paris au petit matin, etc. C'est un mélange assez extraordinaire. Et quand Lanzmann parle de l'horreur du monde, il sait de quoi il parle. Hein. Il est le frère de
Claude Lanzmann,
l'auteur
de Shoah,
etc. Donc, franchement, il a de la matière, on va dire, hein, que Dutronc, ça n'est pas du tout la même histoire.
Je suis dauphin de la place Dauphine et la place Blanche à mauvaise mine. Les camions sont pleins de lait, les balayeurs sont pleins de balais. Il est 5 heures, Paris s'éveille.
Parmi les 30 titres composés par Lanzmann pour Jacques Dutronc, un nombre impressionnant d'entre eux sont devenus des hymnes. Citons-en quelques-unes. Il est 5 heures, Paris s'éveille, Fais pas ci, fais pas ça, L'opportuniste, L'aventurier, L'hôtesse de l'air, Le petit jardin ou encore Gentleman cambrioleur. On retourne écouter Lanzmann.
On ne peut plus scandaliser le bourgeois. Ça fait bien 20 ans que on ne peut plus. Donc il faut l'amuser, lui faire comprendre en l'amusant que les choses vont pas très bien. Par exemple, dans la chanson « Et moi, et moi », c'était vraiment la mauvaise conscience du français moyen. 700 millions de Chinois, il se passe des trucs, des choses, il y a des gens qui crèvent de faim, et nous on est là dans sa petite voiture avec son ronron pour son chien, le caligou, tout ce que vous voulez. C'est ça, en fait. Enfin, on se prend pas trop au sérieux. On se prendra au sérieux le jour où on va commencer à toucher les droits d'auteur, je crois. Hein ? C'est vrai. En écrivant « Et moi, et moi », le monde crève de faim et tout ça, nous, on s'achète des châteaux. Vous voyez ?
Au fur et à mesure des années, le duo parolier-compositeur formé par Lanzmann et Dutronc s'étiole. Lanzmann a laissé entrevoir à Jacques Chancel les raisons de cette rupture. Dans une émission qui date du 14 octobre 1982, en voici un extrait.
Vous avez parlé de Jacques Dutronc, enfin nous avons tout dit à ce sujet, mais vous retravaillerez avec lui ?
Peut-être. Peut-être.
Vous n'êtes pas sûr ?
Non, j'en suis pas sûr. Non, je ne retravaillerai pas avec lui tant qu'il aura des conseillers artistiques tels qu'il les a actuellement, parce que je ne m'entends pas avec eux et il n'y a aucune raison. Donc, je subis les séances d'humiliation lors des séances d'enregistrement. Ça, je déteste ça. Alors, de ce côté-là, comme le disait François Gonnet tout à l'heure, je suis craintif. Oui.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé, Véronique Mortaigne, entre ce couple, ce duo musical incroyable qui fait tout un tas de chansons qui sont des tubes et cette fin qui se termine, on l'entend dans l'archive, un peu en eau de boudin avec ce mot d'humiliation même, je ne sais pas à quoi ça fait référence.
Effectivement, Dutronc avec Lanzmann se sont bien amusés et à un moment donné, il y a l'arrivée de dirigeants de maisons de disques qui viennent d'ailleurs. Qui viennent pas, c'est plus des personnages comme Barclay, etc., qui viennent du Sérail, et puis des exigences de conformité aussi.
Donc Dutronc finalement rentre dans le système et oui. Lanzmann ne veut pas. Et du coup, ça crée quand même pour Dutronc, on a l'impression, une seconde partie de carrière qui est un peu moins flamboyante que la première. Est-ce que vous avez le sentiment que Dutronc sans Lanzmann n'aurait pas été finalement le chanteur dont on se souvient aujourd'hui ?
Dutronc sans Lanzmann, effectivement, ne serait pas du tout. Il n'aurait pas fait les tubes formidables qu'il a fait. Il y a vraiment, et c'est ça le miracle aussi d'une chanson qui réussit et qui marche et qui devient un tube, c'est qu'il y a une alchimie extraordinaire. Il y a une alchimie qui, à cette époque-là en tout cas, était fabriquée sur le moment avec beaucoup de spontanéité. Hein, ça va du riff de guitare aux mots improvisés sur un coin de table, etc. Ce qui maintenant a beaucoup changé, effectivement, ce qui n'empêche pas de faire des tubes, mais ce n'est pas des mêmes conditions de production. Et de fait, cette espèce de fraîcheur, de désinvolture, de distance qui est prise, quelque chose d'assez français aussi, hein, dans cette espèce de chic un peu distant qu'ils ont, est bien ancré dans l'époque et ça marche très bien. Et effectivement, je crois que Dutronc, alors qu'il a une belle voix, qu'il a beaucoup de présence et beaucoup d'intelligence, et qu'il est musicien et guitariste au départ, hein, n'aurait pas pu faire cette carrière, de fait.
La rupture avec Lanzmann va entraîner un tarissement du nombre de très bonnes chansons de Dutronc, lui-même d'ailleurs le reconnaissait. De toute façon, ce n'est pas très grave, semble-t-il penser. Toujours la même règle de vie, il faut savoir se laisser guider par les événements et ne pas trop les contrôler. Or, un heureux événement arrive justement et il s'appelle Thomas, fils de Jacques et de Françoise, le petit garçon entre les deux.
Tu te rappelles de ce que je te disais ?
C'est plutôt ça que tu
voulais.
Ouais.
Tu t'en rappelles ?
Ouais, un petit peu.
On va voir.
Qu'est-ce que l'arrivée de cet enfant va changer pour les deux musiciens ? Eh bien, c'est de ce duo devenu trio dont nous allons parler à présent.
Fais pas ci, fais pas ça, viens ici, mets-toi là. Attention, prends pas froid ou sinon gare à toi. Mange ta soupe, allez, brosse-toi les dents. Touche pas ça, fais dodo, dis papa, dis maman. Fais pas ci, fais pas ça,